18h18.
Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, Baptiste?
Docteur homéopathe.
Docteur homéopathe? Qu'est-ce que c'est un homéopathe?
C'est un docteur pas comme les autres.
Pourquoi il n'est pas pareil que les autres?
Parce qu'il ne donne pas d'antibiotiques, il donne que des tisanes et du miel et des suisses.
Et des choses naturelles.
Aussi.
On l'applaudit parce que c'est ça.
Voilà pour ce petit clin d'œil. L'homéopathie, le thème de notre débat ce soir, une manière de soigner qui emballe davantage ce jeune garçon que notre ministre fédéral de la Santé.
Il y a deux semaines, Frank Vandenbroek présentait son plan pour réformer les mutuelles et parmi les économies suggérées, il y a la fin du remboursement de l'homéopathie. Il n'existe, selon Frank Vandenbroek, et il n'est pas le seul, aucun début de preuve que l'homéopathie améliore réellement la santé.
Alors on précise qu'aujourd'hui, l'assurance maladie obligatoire, l'INAMI, ne rembourse pas les prestations de pratiques non conventionnelles comme l'homéopathie, mais les mutualités proposent en fait un remboursement partiel sous forme d'avantages complémentaires via nos cotisations. Donc, c'est ainsi que les mutualités chrétiennes prévoient par exemple un remboursement de 15 euros pour une consultation chez un homéopathe avec un plafond de 75 euros par an, ou que Solidarise rembourse 25% des achats en pharmacie avec un plafond de 150 euros par an pour vos granules homéopathiques.
Faut-il mettre fin à ces remboursements, comme le suggère le ministre de la Santé? Venez participer à la discussion avec nos deux invités. Emma Louise vous attend au standard 070 66 55 44. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur WhatsApp 0 471 200 500.
La première, le monde en direct.
Et pour échanger avec vous, nos deux invités ce soir, le docteur Jean Lanceman, médecin homéopathe et président de la Société Royale Belge d'Homéopathie, et le docteur Jean-Christophe Goffard, directeur du service de médecine à l'hôpital universitaire de Bruxelles. Bonsoir à tous les deux et soyez les bienvenus.
Merci, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci.
Alors, on va commencer avec ces quelques éléments. 1000 produits homéopathiques retirés du marché en Espagne récemment, après la publication d'un rapport officiel concluant que l'homéopathie ne sert à rien. Le déremboursement de l'homéopathie en France et peut-être bientôt aussi en Belgique. Est-ce que c'est l'heure du retour de bâton, du backlash pour l'homéopathie? Est-ce que c'est votre sentiment, docteur Jean Lanceman?
Est-ce que je peux me permettre en une minute de planter le décor et d'expliquer à nos auditeurs ce que c'est?
Il vous reste 53 secondes alors.
Ça ira. L'homéopathie a été découverte en 1796 par un médecin allemand, Hahnemann, qui a mis en évidence deux choses. La loi de similitude, c'est-à-dire un tableau de symptômes présentés par un patient peut être guéri par l'administration à dose homéopathique du produit toxique susceptible de provoquer ce tableau. C'est une chose. Et l'autre chose est une notion de globalité, c'est-à-dire le patient est unique, il forme un tout, un ensemble harmonieux, le corps et l'esprit, et son équilibre est rompu, c'est le diagnostic universel. Ce qui change pour chacun, c'est la manière dont cette rupture d'équilibre s'exprime. Ça, c'est le symptôme, mais le symptôme, c'est pas le problème, c'est l'expression du problème. Et la médecine traditionnelle s'efforce de donner au patient une béquille en gommant ce symptôme, alors que nous cherchons à restaurer l'équilibre.
Vous dites que c'est une approche holistique ?
Globale, voilà, tout à fait.
Retour de bâton ?
Retour de bâton, pourquoi ?
L'homéopathie a eu meilleure presse à d'autres époques que ce n'est le cas aujourd'hui. On voit que dans tous les pays, il y a eu un débat en Suisse également récemment, dans tous les pays européens, on se questionne sur la place que doit avoir cette pratique parmi d'autres.
Oui, et en vertu de quoi ? En vertu d'un manque de preuves, peut-être ? Je suis venu ici à 10 ans dire la même chose, c'est-à-dire que cette attitude semble se baser sur l'absence de preuves. Or, les preuves, en quelques années, nous en avons accumulé quelques-unes, notamment sous forme d'études randomisées, c'est-à-dire effectuées de façon rigoureuse en double aveugle contre placebo, et nous avons là actuellement 166 études randomisées qui atteignent un score positif de quelque chose comme 42%, c'est-à-dire analogue, je pense, à ce qu'on obtient en médecine traditionnelle. C'est significatif. Et ça veut dire que ces remèdes homéopathiques fonctionnent. Alors, 166 études, alors qu'en médecine traditionnelle, on en a sûrement des centaines, voire des milliers, c'est peu, certes. Mais c'est un manque de moyens. Mais voilà, pourquoi pas plus de moyens ? Quand on est scientifique et qu'on est confronté à une situation qu'on ne comprend pas, est-ce qu'on dit « je ne comprends pas, donc ça ne marche pas » ? Non.
Mais si on prend l'exemple espagnol qu'on mentionnait il y a un instant, je pense qu'il y a 64 études scientifiques qui ont été réalisées pour arriver à la conclusion que l'homéopathie ne servait à rien. Et le but était de vérifier l'efficacité de l'homéopathie. On est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas d'efficacité, en tout cas selon les critères utilisés par les comités scientifiques.
Ben, il faut croire que nous n'arrivons pas aux mêmes conclusions.
Votre réaction, Jean-Christophe Goffard, est-ce que vous avez déjà pris des granules, vous ?
Alors, moi, je n'ai jamais pris de granules.
Et pour quelle raison ?
Alors, pour quelle raison ? Ben, d'une part, probablement parce qu'il n'y avait pas de croyance au sein de ma famille, par mes parents, etc. Je parle réellement de croyance.
Croyance ?
Oui, c'est le terme que j'utilise quand on parle finalement d'une théorie qui est évoquée au XVIIIe siècle, qui évolue peu. C'est toujours inquiétant quand la science évolue peu en deux siècles. C'est sans doute un point d'attention qu'il faut avoir si on garde des principes finalement à l'aune où à peine l'anatomie était connue, où on découvrait à peine des phénomènes physiologiques. On ne connaissait pas les récepteurs à la surface des cellules sur lesquelles agissent les médicaments, et où même notre approche empirique de médecine traditionnelle était souvent toxique. Je vous rappelle les sels de mercure pour traiter la syphilis, c'était une catastrophe. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'études randomisées pour pouvoir montrer que ce que l'on faisait a été utile pour le plus grand nombre des patients qui présentaient une souffrance, une pathologie, un symptôme que l'on reliait à une maladie bien identifiée. Évidemment, il faut identifier la maladie sur base des signes et des symptômes que ressentent le patient pour pouvoir les classer, les inclure dans des études, tirer au hasard quel traitement va être utilisé et mesurer l'effet, parce qu'en effet, beaucoup, et heureusement, beaucoup de maladies se guérissent spontanément, simplement parce que nous avons une immunité, parce que nous avons des capacités de résilience, de résistance, des capacités génétiques.
Et donc ces granules, elles ne servent à rien ?
Alors, c'est pas moi qui dois le dire, c'est en effet la démonstration aussi par des études bien faites et randomisées. Déjà en 2005, il y a eu une méta-analyse qui a été faite dans le Lancet, publié avec un éditorial qui disait d'ailleurs la fin de l'homéopathie et qui était assez dur avec les homéopathes parce qu'elle disait ça devrait être interdit de continuer à pratiquer l'homéopathie.
Mais à tous ceux et toutes celles qui nous disent « moi j'ai pris de l'homéopathie, je me sens formidablement bien, ça m'évite de prendre des médicaments », à tous ceux-là, vous dites qu'en fait ils n'auraient rien pris et il se serait passé la même chose, ça aurait guéri spontanément ?
Alors, tout dépend évidemment de la pathologie qui est sous-jacente et aussi ce que l'on mesure comme effet. Et là, il est clair que la médecine traditionnelle commence à peine, la médecine finalement scientifique, commence depuis récemment à prendre en compte des effets qui ne sont pas spécialement la diminution de la tumeur, la diminution des symptômes tels que la toux, de la production de glaire, etc., mais aussi l'expérience que ressent le patient. Et ça, ces patient-related experiences sont incluses dans nos études cliniques maintenant. Et elles sont essentielles parce qu'elles montrent aussi qu'en effet, on peut s'améliorer par de plein de façons. Simplement en ayant une main qui vous touche, en ayant une voix qui est apaisante, en ayant même une prière, et je peux vous dire que les patients VIH qui pensent être guéris par leur prière et qui vont beaucoup mieux et arrêtent leur traitement.
Donc vous dites là où il faut s'inspirer de l'homéopathie, c'est dans la relation qu'il y a aux patients.
Oui, mais mes patients qui arrêtent leur traitement finissent quand même par mourir s'ils ne le reprennent pas, même s'ils se sont sentis mieux en arrêtant le traitement à un moment donné.
Avalanche de réactions et de témoignages ce soir. Je vous lis d'abord celui-ci de Edith, qui a 81 ans. Depuis mon enfance, dit-elle, mes parents nous ont soignés par homéopathie. J'ai poursuivi aussi avec nos 4 enfants. L'homéopathie est une médecine préventive. J'ai eu comme tout le monde des rhumes, des grippes, etc. J'ai pris une seule fois un antibiotique dans ma vie, prescrit par notre médecin homéopathe, dit-elle. Ces médecins sont sérieux. Rembourser l'homéopathie préserverait la santé de la population et ferait faire, nous dit-elle encore, de sérieuses économies à la sécurité sociale. On prend l'appel de Doriane qui nous écoute à Binche. Bonsoir Doriane.
Oui, bonsoir.
C'est à vous de témoigner.
Alors, donc moi, j'ai ma deuxième petite fille en 1992. Une semaine après être rentrée à la maison, elle est remplie d'eczéma, je l'allaite, comme je l'ai fait pour la première qui est née en 91. Et donc, au bout d'un moment, elle respire plus. On se retrouve à l'hôpital. Il la tartine de cortisone. Elle est magnifique, sauf qu'elle respire encore moins. Et là, je me dis, mais on est en train de faire quoi? Et mon ami me dit, mais tu sais, tu devrais aller voir une pédiatre homéopathe. Clara a... mais des allergies multiples, mais vraiment multiples, et elle a été traitée par un médecin pédiatre homéopathe pendant toute son enfance et toute sa période adulte. Elle va super bien, elle est belle. Et alors par rapport à ce que je viens d'entendre, je me dis ok, un bébé d'une semaine, bah pourquoi pas, il réagit à je ne sais pas quoi. Mais alors il y a aussi mon chat qui, quand je l'amène chez le vétérinaire, vomit les 10 kilomètres qui séparent de chez le vétérinaire, et à qui le vétérinaire m'a dit, mais donnez-lui des granules en homéopathie avant de prendre le trajet. Et donc, effectivement, deux heures avant, je lui donne des granules contre le mal du transport. Et comme par hasard, il ne vomit pas. Donc, mon chat, c'est comme mon bébé. Ben voilà, je ne sais pas. C'est le Saint-Esprit, mais franchement, ça marche. Donc,
merci
voilà
pour ce témoignage.
Merci, Doriane.
Alors, c'est vrai que quand on dit l'homéopathie, en fait, c'est pas plus efficace qu'un effet placebo. Un des arguments qui revient souvent, comment expliquer alors que ça marche aussi bien sur des petits-enfants ou sur des animaux? C'est un argument que vous utilisez, vous aussi, Jean Lensmay?
La comparaison entre l'homéopathie et l'effet placebo, c'est un grand classique qui revient sur le tapis chaque fois.
C'est pas comme ça que vous le qualifiez, vous?
Ben, si j'en vivais depuis 40 ans, c'est pas parce que ça marche comme effet placebo.
Mais l'effet placebo, ça peut être puissant, donc pourquoi pas?
Oui, mais il a un score d'autour de 30%, toute pathologie confondue. Vous pouvez pas construire une pratique médicale sur base de 30% de résultats. Les patients, ils viennent plus. Et effectivement, l'exemple que donne notre auditrice, son bébé est-il susceptible de réagir à l'effet placebo? Son chat, je pense pas non plus. Réduire l'homéopathie à l'effet placebo me paraît un peu court. Et d'autre part, nous avons maintenant, depuis 2023, un argument qui démolit cet amalgame, en ce sens que nous avons démontré la présence de nanoparticules dans les solutions homéopathiques au-delà du nombre d'Avogadro. Donc là où le chimiste ne trouve plus rien, le physicien a mis en évidence des nanoparticules qui sont spécifique de chaque remède étudié, qui s'agence de façon différente. Donc, l'équation homéopathie égale effet placebo, il n'y a plus rien dans vos solutions homéopathiques. Je suis désolé, c'est une équation du XXe siècle. C'est fini, ça. Il faut étudier le dossier.
Jean-Christophe Goffard, sur la composition en effet des produits homéopathiques, certains médecins on va dire conventionnels, entre guillemets, comme vous, disent oui, c'est du sucre ou à peu près.
Mais donc, je ne suis pas pharmacien, donc je vais dire ce que je connais évidemment de la composition des médicaments homéopathiques, enfin des substances homéopathiques qui prennent la plante mère, donc pas la plante déshydratée ou quoi que ce soit, donc aussi avec toutes les variations que ça peut donner, qui les diluent de plus en plus pour qu'il ne reste plus rien, en tout cas comme molécule mesurable en tant que telle provenant de la plante mère, et là visiblement vous êtes d'accord qu'il ne reste plus rien comme molécule dans les granules de sucre ou les substances homéopathiques, et donc il resterait une mémoire ou des nanoparticules dont je n'ai jamais entendu parler, mais qui je ne sais pas d'où elles viennent du coup, ni ce que ça représente, mais dont la seule démonstration de l'efficacité in vitro qui a été faite à un moment donné, publiée dans une superbe revue que s'appelle Nature, a été cassée parce qu'il s'agissait de tricherie et de fraude scientifique. Donc ils ont publié, ils ont regardé s'il y avait un effet cellulaire, l'effet cellulaire était magnifique, puis ils ont été revérifier l'expérience avec un prestidigitateur, avec un spécialiste de la fraude scientifique et l'éditeur de Nature, et l'expérience n'était pas reproductible si l'expérimentateur ignorait où était la substance homéopathique par rapport à une véritable substance active.
Mais comment est-ce que vous réagissez, vous, au témoignage de notre auditrice juste avant, quand elle dit que l'eczéma a disparu, les allergies ont disparu?
Je suis très content à la fois pour sa fille et pour elle, et certainement aussi par l'approche holistique de son médecin, parce que là, nous partageons tout à fait le même point de vue, qu'il faut prendre en charge les patients de façon globale, en n'isolant pas un symptôme par rapport à d'autres, en voyant dans quel environnement ils vivent, en prenant en compte tous les symptômes qu'ils peuvent avoir, mais se dire, sur une expérience personnelle, oui, ça va marcher pour tous les patients et il faut rembourser, malheureusement, c'est pas raisonnable non plus.
Votre mot croyance, il fait pas mal réagir, notamment Martine qui nous dit j'ai soigné par l'homéopathie des migraines ophtalmiques et également des allergies, ce n'est pas une croyance, juste le constat que ça a marché, où il y a encore aussi ici le message de Joss qui nous dit « J'ai commencé quand j'avais 26 ans, je suis ingénieur, donc scientifique, j'ai maintenant 68 ans, mon épouse, mes trois enfants et moi, nous avons toujours été bien aidés par notre docteur homéopathe. Nous regrettons la façon bornée des médecins conventionnels envers l'homéopathie. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Alors, je vais simplement lui répondre quelque chose de très simple. Nous avons besoin de pouvoir rembourser des médicaments qui ne sont pas remboursés en Belgique. Des médicaments qui sont reconnus comme ayant montré une efficacité dans des études contrôlées, randomisées, augmentant la survie des patients et la morbidité des patients. Et en Belgique, je prends l'exemple des artérites à cellules géantes, un mémoire qui a été présenté hier, c'est pas remboursé alors que c'est remboursé partout ailleurs dans le monde. Et pourtant, on impose des corticoïdes et ce genre de choses. Alors, si on n'a pas de démonstration scientifique, d'accord, continuons les pratiques, etc., si ça améliore les symptômes de personnes, mais la société n'a pas à payer pour ces pratiques. C'est simplement ça mon message. Et en effet, c'est peut-être pas très cher, mais il y a d'autres médicaments dont nous avons cruellement besoin, et il faut pouvoir les rembourser, ceux-là.
J'apporterai quand même ce chiffre. J'ai regardé un petit peu combien ça coûtait aux mutuelles. Exemple pour Solidaris, une des grandes mutuelles de notre pays, c'est 125 000 euros par an. Ces remboursements pour l'homéopathie, ça profite à 11 000 personnes sur 1 300 000 affiliés. C'est donc pas un montant énorme. On parle ici d'une mutuelle, il y en a d'autres, mais ce n'est pas des montants gigantesques. Vous semblez sceptique par rapport à ce que je dis.
Non, sceptique. Je suis profondément désolé que des médicaments considérés comme très importants par mon confrère ne soient pas remboursés. Franchement, nous sommes confrères, nous travaillons à la même chose, c'est-à-dire le bien du patient. Si le patient, après quelques consultations chez l'homéopathe, peut se passer de son médicament coûteux à l'INAMI, genre antibiotique, antidépresseur pris pendant des années et qu'il peut interrompre grâce à un remède homéopathique, c'est une économie quand même.
Donc vous vous dites que ça ne va pas faire d'économie à la sécurité sociale et aux mutuelles, en fait, de dérembourser l'homéopathie.
Non,
vous dites que ça va coûter plus cher.
Ça va lui coûter des sous. C'est un mauvais calcul. Si vous continuez à favoriser une médecine homéopathique qui contribue à débarrasser le patient de ce que j'appelle ses béquilles, donc ces médicaments, ma foi, quand même coûteux, c'est intéressant.
Et docteur Lensman, est-ce qu'il n'y a quand même pas aujourd'hui une responsabilité d'un État démocratique qui défend la science de donner des guidelines? Parce que quelque part, et je pense que par exemple l'Académie de médecine ne nie pas que toute une série de patients se sentent mieux quand ils prennent des granules. Et il y a des témoignages qui montrent qu'en effet toute une série de personnes se sentent mieux. Mais s'il n'y a pas d'évidence scientifique qu'il y a un lien direct entre la composition de la granule ou de la substance homéopathique et le bien-être du patient, que c'est un effet qui est avant tout psychologique. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de l'État d'avant tout défendre la science? On est dans un monde où la science est d'ailleurs fort malmenée.
La science, on y arrive, puisque je vous cite quand même une série d'études randomisées, d'une part, je vous dis qu'il y a des nanoparticules dans nos solutions, d'autre part, et puis combien même les gens se sentiraient mieux grâce à l'effet placebo, pourquoi pas, après tout. C'est pas de ça qu'il s'agit.
Donc vous dites, on se sert des études qui nous arrangent, si je comprends bien.
Oui, c'est ça.
Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Vous écoutez Arlon et c'est à vous.
Oui, mais voilà deux, trois petites réflexions par rapport à tout ça. D'abord, une expérience, c'est que moi aussi, j'étais pas très certaine au début de l'homéopathie, mais ma fille faisait, elle avait fait une bronchiolite à 5 mois, et pendant un an et demi, elle a fait des bronchites asthmatiformes, et c'était vraiment très impressionnant. Elle se mettait à tousser, on savait plus, on savait pas quoi faire pour arrêter ça. Et la première fois que je suis allée chez l'homéopathe, donc elle avait, je sais pas moi, 2 ans et demi, 3 ans. Elle a, le médecin Bah, on a discuté pendant un certain temps, c'est vrai, la petite n'arrêtait pas de tousser. Et puis, bah, elle a dit, bah, OK, on va tester ça, je vais lui donner ça. Elle lui a donné 3 granules et le temps que je paye, alors je précise qu'en fait, les 20 minutes de trajet jusque chez le médecin, elle n'a pas arrêté de tousser. Vraiment, elle n'a pas arrêté de tousser. Tout du long chez le médecin, elle n'a pas arrêté de pousser et elle a pris ses 3 granules et ça a commencé à l'apaiser le temps que je paye et quand je suis rentrée chez moi 20 minutes plus tard, elle ne toussait plus. Et depuis, en fait, j'ai toujours soigné je vaccine mes enfants, ils prennent des antibiotiques quand il y a besoin d'antibiotiques, la question n'est pas là. Mais pour toutes ces petites maladies, monsieur disait tout à l'heure, la plupart du temps, on guérit spontanément. Mais si on guérit spontanément, alors en fait, je préfère encore payer un tube de granules à 5 euros avec lequel je vais aller pendant 3 ou 4 ans, que d'aller finalement payer des médicaments beaucoup plus chers, qui me coûtent cher à moi, qui coûtent cher à la société, puisque de toute façon, ce n'est pas nécessaire.
Merci d'avoir partagé votre point de vue. Il nous reste 30 secondes.
Ouais. Une réaction, Jean-Christophe Goffard.
La réaction, oui, la prescription est parfois inappropriée. Oui, il existe aussi en médecine traditionnelle des médicaments qui ont été déremboursés, retirés du marché, parce qu'ils n'avaient comme effet que des effets placebo et qu'ils n'avaient pas bien été testés. Et donc, voilà, il y a un moment où on doit pouvoir remettre en cause ce que l'on traite, mais on traite aussi des entités nosologiques qui sont claires, ce qui n'est pas toujours le cas de l'homéopathe dans sa définition de la maladie.
Et il est peut-être important de rappeler pour terminer qu'il ne s'agit pas d'un débat ici sur l'interdiction de l'homéopathie et que qui a envie de venir consulter le docteur Lanzmann par exemple parce qu'il a l'impression que ça lui fait du bien pourra toujours le faire. On parle quand même de remboursement assez minime, hein, 75 euros par an, 150 euros par an, on n'est pas sur des sommes gigantesques. Il y a donc la liberté de chacun, et puis il y a ce débat avec les arguments des uns et des autres que vous avez entendus ce soir. Merci à tous les deux.
Oui, avec vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. 18h39, un roman